Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 22h à Mayotte, et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, le verdict est tombé dans l'affaire des viols de Mazan. 20 ans, peine maximale pour Dominique Pellicot, mais des peines inférieures aux réquisitions pour ses 50 co-accusés. Gisèle Pellicot dit pourtant respecter le verdict et est saluée pour son courage dans le monde entier. Face à la détresse des Mahorais, Emmanuel Macron promet une loi spéciale pour rebâtir Mayotte, tout en renforçant la maîtrise de l'immigration illégale. Le président, qui redoute un bilan humain bien supérieur aux 31 morts annoncés, a également décrété un deuil national lundi prochain. Durant sa traditionnelle conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine estime que son pays aurait dû se lancer bien plus tôt à l'assaut de l'Ukraine. Le président russe, qui se dit prêt à rencontrer le président élu américain Donald Trump à n'importe quel moment. Enfin, Elon Musk va-t-il soutenir financièrement l'extrême droite britannique? Le milliardaire américain aurait promis 100 millions de dollars au parti de Nigel Farage. Au grand dam des conservateurs, mais également du gouvernement travailliste britannique, qui n'apprécie pas, mais pas du tout, cette immixtion dans la vie politique du royaume. Elle est sortie du tribunal d'Avignon sous les bravos et les merci de la foule. Gisèle Pellicot, devenue une véritable icône féministe pour avoir refusé le huis clos du procès. Ce procès de Mazan, devenu le symbole des violences faites aux femmes. Au terme de cette affaire hors norme, son ex-mari Dominique Pellicot a donc été condamné à la peine maximale, 20 ans de réclusion pour viol aggravé et ses 50 co-accusés. De 3 à 20 ans de prison, 6 d'entre eux sont repartis libres, des peines bien en dessous des réquisitions. À Avignon, Tanita Fallet.
5 à 18 ans d'emprisonnement, c'est ce qui avait été requis. La cour a décidé de baisser la lourdeur des peines. De quoi soulager Maître Gontard, avocat de Jean-Pierre M., autre gros accusé de ce dossier qui a drogué sa femme pour la violer et la faire violer sous les conseils de Dominique Pellicot. Il a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle.
C'est un homme qui, par ce verdict, retrouve un peu de la place et de l'image auprès de sa famille. Et va continuer à s'engager dans la voie de la réinsertion.
Voilà. Maître Gontard, qui ne fera pas appel, ce que n'exclut cependant pas Maître Zavaro, avocate de Dominique Pellicot, pour qui la décision rendue est injuste.
Monsieur Pellicot n'était pas forcément le chef d'orchestre et les autres n'étaient pas les musiciens. Pour autant, je pense que par l'énoncé de ce verdict, la Cour a condamné le chef d'orchestre en faisant une différence justement entre lui et les différents musiciens qui composent cet orchestre, dont acte.
Et quand on lui demande ce qu'elle en pense, Gisèle Pellicot répond:
je respecte la cour et la décision.
Une décision qui a privilégié la prison. 40 accusés seront incarcérés dès aujourd'hui. Tanita Fallet, Avignon, RFI.
Un verdict trop clément ont regretté les enfants du couple Pellicot. Un verdict également au goût doux amer pour les féministes qui appellent à des réformes structurelles en France. Le combat de Gisèle Pellicot nous oblige et doit être suivi, affirme en tout cas ce soir le Premier ministre François Bayrou, alors que la classe politique française a été unanime pour saluer le courage de Gisèle Pellicot, à l'instar également de plusieurs chefs d'État étrangers. « Merci Gisèle Pellicot », a ainsi écrit le chancelier allemand Olaf Scholz. « La honte doit changer de camp », a souligné de son côté le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, qui a également salué la dignité de Gisèle Pellicot. L'autre grand titre de l'actualité, c'est bien sûr Emmanuel Macron, chevet de Mayotte, 5 jours après l'ouragan dévastateur Chido, qui a complètement détruit l'archipel. Le président arrivé tôt ce matin à Mamoudzou avec plusieurs tonnes d'aide et des secouristes, a été vivement interpellé par des habitants désespérés, voire en colère face au désastre. Le chef de l'État a de son côté notamment annoncé un fonds d'indemnisation pour les Mahorais non assurés et martelé sa volonté de rebâtir Mayotte avec de nouveaux critères et sans bidonville, en supprimant, a-t-il dit, les habitats indignes et dangereux et tout en renforçant la lutte contre l'immigration clandestine. Le président qui avertit également que le nombre de victimes du cyclone serait vraisemblablement très supérieur aux 31 morts recensés pour l'heure. On l'écoute.
Je serai très prudent sur les chiffres. Je pense que le chiffre qui a pu être évoqué dans la presse locale, rien ne permet de le corroborer. Aujourd'hui, on a une trentaine de chiffres officiellement. À partir des 32, c'est ça, monsieur ?
31, monsieur.
31. Il y a un travail qui est fait. Un sous-préfet qui a été mis à disposition de monsieur le préfet est en charge de ce travail. Et donc, si 31 sont officiellement décomptés à date, ce travail va se poursuivre. Mais je pense qu'il est vraisemblable qu'il y ait beaucoup plus de victimes.
Emmanuel Macron qui a décidé de prolonger sa visite jusqu'à demain, vendredi, afin de se rendre également dans des zones plus reculées de l'archipel et décréter une journée de deuil national lundi prochain avec un moment de recueillement dans tout le pays à 11h. Pendant ce temps, à Paris, sur le front de la crise politique, François Bayrou assure qu'il nommera son gouvernement avant Noël. Près d'une semaine après sa nomination, le nouveau Premier ministre continue ses consultations politiques, à l'exception de la gauche radicale et de l'extrême droite. Il a notamment proposé aujourd'hui aux autres chefs de parti d'intégrer son gouvernement, se disant prêt à reprendre la réforme des retraites, mais visiblement sans convaincre Victorien Guillaume.
1h30 de discussion et finalement l'impression pour la gauche de parler à un mur. La patronne des écologistes, Marine Tondelier.
On est très inquiets. On sera toujours du côté des solutions, mais à un moment, il faut qu'ils entendent que nous sommes responsables depuis le départ. Et eux, ils sont aussi responsables de ne vouloir rien bouger, rien changer. Et au moment où il y a la censure, on recommence à zéro, ils nous remettent dans la même impasse.
François Bayrou a proposé aux forces politiques présentes, gauche comprise donc, de rentrer au gouvernement. Refus catégorique, nous explique le communiste Stéphane Peu.
Il lui a fait comprendre, pour ce qui nous concernait, que nous sommes dans l'opposition. C'est évident, puisque ce n'est pas un gouvernement de gauche.
Autre proposition qui se veut là encore un pas envers la gauche, des discussions de 9 mois sur la réforme des retraites que le nouveau Front populaire rêve d'enterrer. Le socialiste Olivier Faure.
C'est évidemment très insuffisant. Ce que nous souhaitons, nous, c'est qu'il y ait la possibilité de suspendre cette réforme des retraites dès à présent. Et au mois de septembre, on puisse avoir une abrogation de la réforme Borne.
Malgré l'appel de la France insoumise à stopper les discussions, écologistes, communistes et socialistes laissent encore la possibilité à François Bayrou d'annoncer des compromis.
En Russie, le grand oral, tout en provocation de Vladimir Poutine, dans sa traditionnelle conférence de presse annuelle, le président russe a ainsi estimé que son pays aurait dû se lancer à l'assaut de l'Ukraine bien plus tôt. Vladimir Poutine, qui ne semble guère pressé d'arrêter son opération spéciale en Ukraine, même s'il se dit prêt à rencontrer Donald Trump à n'importe quel moment. Et puis pour la première fois, le président russe a également commenté la chute de son ancien protégé, Bachar el-Assad, et il n'a pas du tout apprécié le mot de défaite utilisé pour la Russie à ce sujet. Le président russe, qui s'est également montré très prudent sur les relations à venir avec les nouveaux maîtres de Damas et qui a évoqué l'avenir des bases russes dans le pays.
Nous devons décider nous-mêmes de la forme que prendront nos relations avec les forces politiques qui contrôlent aujourd'hui et contrôleront la situation dans ce pays à l'avenir. Nos intérêts doivent coïncider. Si nous restons là-bas, nous devons aussi agir dans l'intérêt du pays où nous nous trouvons. Quels seront ces intérêts? Ce que nous pouvons faire pour eux? Voilà une question qui attend des recherches minutieuses des deux côtés. Mais nous pouvons déjà, dans l'immédiat, faire quelque chose en utilisant ces bases. Nous l'avons déjà proposé à nos partenaires, notamment à ceux qui se trouvent sur le territoire syrien et aux pays voisins, d'utiliser par exemple la base aérienne de Ain Mimin pour acheminer de l'aide humanitaire en Syrie. Il en va de même pour la base navale de Tartous.
Enfin, Elon Musk va-t-il soutenir financièrement l'extrême droite britannique? L'immixtion du milliardaire dans la politique britannique crée en tout cas des remous au Royaume-Uni, après que le chef du parti d'extrême droite, Nigel Farage, ait rencontré lundi le patron de SpaceX, affirmant que ce dernier voulait aider son parti. Il y a quelques semaines déjà, l'éventualité d'un don de 100 millions de dollars au parti de Farage avait fait bondir le gouvernement travailliste, mais également les conservateurs britanniques, qui voient d'un mauvais œil sa proximité avec l'extrême droite locale, des craintes d'autant plus vives qu'Elon Musk, très proche de Donald Trump, eh bien, est amené à occuper des fonctions officielles dans la prochaine administration américaine. Il est 20h10 à Paris. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, pour trouver Accent Europe.